Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Bonjour, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes sur Radio Syllabe, la radio sauvage des campus rennais. Vous écoutez J'irai cracher sur vos ondes, l'émission littéraire du lundi soir.
Chaque lundi soir, on vous prépare des émissions où on vous fait découvrir des faits et objets littéraires de tout horizon et poil. Chroniques, littérature, entretiens et reportages, on ne s'enferme dans aucun format, pourvu que l'on te mette à l'honneur une littérature vivante, vibrante, singulière et plurielle. Et ce soir, c'est une émission enregistrée et diffusée en live. Ça faisait bien longtemps. Ça te manquait pas à toi, Clara ?
Ça commençait à me manquer un petit peu.
Avec nous, on a Benoît à la technique. Merci à lui d'être venu pour faire en sorte que vous puissiez nous entendre. Tu peux couper le générique, Benoît. Je sais qu'il est super, mais on peut maintenant finir. Nous ne sommes pas que trois dans ce studio radio.
Avec nous, on a quelqu'un d'autre. Bonsoir, Max.
Bonsoir.
Peux-tu nous dire qui tu es et pourquoi tu es là ?
Je m'appelle Max Lillo, je suis graphiste et typographe et je fais partie de la collective franco-belge Bye Bye Binary.
Et c'est de ça dont on va parler ce soir.
On peut également ajouter que tu as fait notre sélection musicale de la soirée, une playlist qui va nous faire vibrer avec nos discussions sur les questions de typographie, d'inclusivité et de post-binarité.
Et les playlists, ça te connaît, non ? Je sais pas si on peut le dire à l'antenne, mais t'aimes bien faire ça.
J'adore ça. J'ai une reconversion professionnelle de prévue, je pense.
On peut recommander avant l'escalier.
Tout à fait, merci.
Donc on vous mettra les petits liens dans la description du podcast, parce que oui, on écrit de belles descriptions de podcasts avec plein de petits liens. Avant de se jeter à corps perdu dans le sujet de ce soir, on va s'intéresser un petit peu aux actus. Tout de suite, une page d'Agenda.
Nietzsche a dit...
L'édito tu écouteras, jeune padawan.
Ce lundi 1er juin, les éditions Fiers lancent la campagne Ulule pour les préventes de leur cinquième titre, La Marelle de Maëlan Parentoen, pour une sortie prévue fin octobre 2026.
Si malgré votre écoute assidue de l'antenne syllabienne, vous ignorez ce qui fait toute la saveur et l'importance de cette maison d'édition, on vous invite à aller à leur rencontre à Corsego, cœur en fête, au café Le Podium.
L'événement se tiendra à Rennes le samedi 13 juin. Et parmi une progrès sans sas, il y aura Mélanie Mola, tenant fièrement le stand de sa maison d'édition, ainsi qu'un atelier d'écriture proposé par son autrice prochainement publiée, Maëlan Parentoen.
Dis-moi, Cesse, peut-être qu'on leur dit de quoi va parler ce nouveau roman ?
Ah oui, ça peut être pas mal en effet. Il s'agira d'un roman épistolaire entre Alice, jeune maman et en postpartum, et Maya, TDS lesbienne. Par une rencontre avortée, ces deux jeunes femmes, que tout oppose, vont se découvrir et partager leur quotidien. Et peut-être bien qu'à la façon d'une partie de Marelle, leur relation va progresser et leur permettre d'arriver en case-paradis, en état d'empouvoirment.
C'est un livre à venir qui fait envie, mais si ne vous voulez pas attendre et que vous avez faim de livre, on a un bon plan buffet à volonté pour vous, n'est-ce pas, Cesse ?
Par cette chaleur, je t'avoue que j'ai plutôt soif, alors pensez à vous hydrater, vous qui nous écoutez. Et pour qui veut se délecter de livres et en remplir sa besace, si ce n'est son grenier, l'établi des mots organise sa rituelle grande braderie des livres d'occasion.
Elle se tiendra les 6 et 7 juin à l'ombre du hall devant la librairie. Elle proposera des tas de super livres à petit prix pour tous les goûts et tous les âges. Il y aura également un espace de gratuité ainsi que des animations. En gros, tout ce qu'il faut pour passer un bon moment parmi les livres.
Et si jamais vous avez vous-même des livres à donner, des ouvrages pas trop anciens et en bon état, vous pouvez les apporter à l'établi des mots. Rien de tel que faire du tri dans sa bibliothèque pour avoir le plaisir de la re-remplir de nouvelles piles à lire.
Annonçons enfin un événement d'exception. Après le succès d'un premier numéro désormais sold out, la collective Bye Bye Binary lance le second numéro de sa revue. Trois soirées de lancement ont été organisées, d'abord à Bruxelles et Paris, et la troisième aura lieu à la librairie La Rencontre.
Le 12 juin à 18h, les libraires de la rue Georges Charpak vont recevoir Sophie Vella, Max Lillo présent ce soir, et Marouchka Payenne pour présenter le numéro EU, Archives typographiques du futur.
Et justement, Max Lillo est avec nous ce soir.
Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? J'ai cru comprendre qu'il y avait une question d'exposition.
Oui, tout à fait. Alors du coup, on fait le lancement à la librairie La Rencontre à Rennes le 12 juin. Parce que dans la collective, on a un fonctionnement où tout tourne tout le temps. Donc là, dans le comité éditorial, il y a notamment Sophie Vella qui habite à Rennes. Et du coup, on s'est dit que c'était en fait important de faire un lancement aussi, pas que à Paris et à Bruxelles, là où est beaucoup la collective. Et donc on fait ce lancement le 12 à 18h à la librairie La Rencontre et nous allons aussi exposer des drapeaux de la collective et des affiches faites au plomb typographique.
Alors on va pouvoir parler un petit peu plus de ce projet et de la collective et Bye Bye Binary, puisque tu es avec nous ce soir pour en parler. Pour commencer, est-ce qu'on peut parler peut-être de comment est-ce que ça s'est construit, cette collective? Qui est-ce qui fait partie de ce collectif quels sont ses objectifs finalement?
Oui. À la base, c'est issu d'un workshop entre deux écoles d'art à Bruxelles, l'Ergue et la Cambre. Workshop nommé en 2018 Gender Fluid, qui essayait d'expérimenter autour des questions de débinariser la langue avec des pratiques expérimentales. Le mot Bye Bye Binary, il est issu de pancartes, de manifestations et de slogans militants. Et donc, en 2018, il y a des étudiants et des personnes extérieures et des professeurs qui viennent tous au Rosa à Bruxelles et qui décident d'expérimenter ensemble. Alors l'idée, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a pas de forme finie, il n'y a pas d'idée de qu'est-ce qui va résulter de ça. Il y a juste une envie d'expérimenter, de trouver des nouveaux horizons pour notre langue hyper binarisée. Et donc de ça a résulté en fait que tout le monde s'est hyper bien entendu et que bah petit à petit on s'est construit en collectif et donc depuis 2018 on ne fait que croître et donc on est une vingtaine un peu éparpillés en Belgique et en France voilà.
C'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a eu une partie de la collective qui est en Belgique, une partie du côté de Paris, quelques ouais. membres qui sont à Rennes. Comment est-ce que vous vous organisez pour mener à bien vos projets? Là, on va voir le deuxième numéro de la revue qui va sortir avec des participants, participantes aussi éparpillés.
Ben, on utilise les bonnes vieilles techniques des visioconférences et des mails et des échanges continus pour essayer de trouver une organisation. En France, on est éparpillés à Paris, à Saint-Étienne, à Lyon, à Marseille et à Rennes. Et en Belgique, tout le monde est à Bruxelles. Donc c'est vrai que ça crée aussi des trucs où souvent on se retrouve aussi à Bruxelles pour des questions techniques où c'est plus facile. Mais donc on est tout le temps à droite, à gauche. Et en fait, c'est hyper florissant de voir comment on peut en fait naviguer et polliniser des espaces différents en fonction de là où on vient et là où on vit.
Par rapport à la création de cette collective, est-ce qu'il y a peut-être des moments clés, des moments forts du projet, parce que ça a été créé en 2018 du coup, ça commence à faire quelques années, ça grandit de plus en plus. Est-ce qu'il y a des temps forts dont tu pourrais nous parler par rapport à ce projet en tant que tel ou plus ou moins lié avec ça?
Bah, dès 2018, il y a quand même une pratique qui naît, qui est que c'est à la base un workshop par et pour des étudiants en design graphique, mais que 1000 expérimentations sont nées en 2018 pendant le premier workshop. Et que ça a fait que perdurer. Aujourd'hui, on n'a pas que une pratique de typographie et de graphisme. Il y a notamment un film qui est en train d'être réalisé sur la collective, un documentaire, dont il y a un tournage dans 2 semaines. Et donc, on essaye au maximum d'étirer la vision d'une pratique expérimentale. Et donc, bon, dans les temps forts de la collective quand même, on a que d'une pratique expérimentale, on s'est quand même un petit peu structuré pour publier ensemble. Il y a quand même la question de publier, de sortir, de montrer, d'oser dire, de raconter à plusieurs voix pour se porter ensemble. Donc, il y a eu la création de la Typothèque en 2020, qui donc diffuse les typographies sous licence open source créées par la collective et ou par d'autres personnes extérieures. L'idée, c'est aussi de créer un réseau, que chacun, chacune puisse se sentir outillé en fait par les outils qu'on met en place. Parce que tout est continuellement documenté. Et donc, qu'est-ce que je peux raconter comme moment fort? On peut parler de la création de l'Acadam?
C'est la question que j'allais poser.
Ok. En 2018, je dirais. C'est un projet porté par Léna Salabert-Tribi, qui est membre de la collective, qui était à ce moment-là en études à Bruxelles, mais qui vit à Paris, et donc qui avait ce projet-là d'essayer de débinariser la langue et de créer des nouveaux suffixes en partant du latin, en partant de réelles histoires linguistiques, parce qu'en fait, les historiens, les historiennes nous le montrent, en fait, on a binarisé la langue avec le temps pour minoriser les minorités, mais à la base, la langue n'est pas minorisée. Et donc, Léna Salabert-Tribi a ce travail autour donc de l'Acadam. On en a beaucoup expérimenté des différentes sortes, et aujourd'hui, Léna, elle fait des réécritures de contes pour enfants dans l'idée de apprendre que les trois petits cochons c'est pas forcément des garçons, etc. Et donc elle donne des ateliers aussi avec des enfants, etc. sur tout ça. Donc c'est une question qui est hyper ouverte et qui est hyper qui a plein de champs possibles, quoi.
Tu nous parles beaucoup du côté de la débinarisation. Est-ce que peut-être pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui ne seraient pas forcément familières de ces termes, on pourrait donner une définition de ce que c'est pour la collective ?
Pourquoi vous l'avez choisi ? Parce que le grand public connaît peut-être d'autres mots comme démasculiniser ou inclure. Vous n'avez pas fait ce choix-là.
Ouais. Y a quand même on s'inscrit dans une logique queer féministe qui est d'être et d'exister avec notamment les questions des personnes trans et des personnes non binaires, et donc c'était hyper important pour nous à la racine et même pour nos propres identités de trouver une solution annexe, une solution alien. Ça veut dire qu'on va pas essayer de joindre le masculin et le féminin, on va pas essayer de prioriser, de mettre une lettre en majuscule par rapport à une autre, on va essayer de trouver ces fonctionnements aliens, ces ligatures, donc c'est le lien entre deux lettres. Et donc, c'est ces mélanges de formes qui sont des nouvelles formes pour essayer de se représenter, trouver qu'est-ce qui pourrait nous représenter.
On parlait donc de la création de cette grammaire en 2018 sur la question de la débinarisation, pardon. Donc, vous avez créé tout un tas de typographies, des typographies qui sont en open source. Alors justement, il y a tout un tas d'enjeux qui se posent par rapport à ça. On en discutait avec CS en préparant l'émission du fait que en mettant des typographies accessibles et libres, n'importe qui peut s'en saisir, ce qui est à la fois un objectif et à la fois peut-être une contrainte. Comment est-ce que vous envisagez ça de votre côté à la collective ? Comment est-ce que vous voyez les choses par rapport à ça ?
Alors nous, il y a un enjeu principal quand même, c'est que la collective est née et est entretenue par des personnes qui ont tous une activité professionnelle derrière, et que la plupart de nos activités professionnelles s'ancrent aussi dans la question d'open source, parce que c'est aussi une question d'apprendre en dehors des cadres institutionnels, parce qu'en fait, en fouillant sur Internet, on peut apprendre énormément de choses, et on espère pouvoir être cette plateforme-là qui permet d'apprendre des choses. Enfin, d'un point de vue hyper personnel, moi, les premières typos que j'ai dessinées, je les ai dessinées avec des caractères post-binaires, et j'ai jamais dessiné une typographie sans caractères post-binaires, et donc c'est aussi toute une logique d'essayer d'être dans une logique de transmission. Alors évidemment, dans l'open source, il y a la question que tout le monde peut se réapproprier nos ressources. Ça peut causer des problèmes et ça en a causé à certains moments puisqu'on a eu en fait pas mal d'institutions ou d'espaces culturels qui sont venus faire ce qu'on appelle de la tokenisation, qui est de faire du queer washing, de pas faire de changement en interne et d'utiliser nos typographies pour se donner une image de bon woke parfait et parfaite. Mais en réalité, nous, on essaye d'apprendre à contextualiser notre travail premièrement, et aussi en donnant les fichiers open source, de laisser les choses évoluer. Je prends l'exemple de Eugénie Bideau, qui a fait un travail à la NRT, donc qui est un post-diplôme en typographie en France, qui a sorti donc l'ADELF, qui est censée être une typographie de labeur ultra lisible pour pouvoir écrire des livres, littéralement, des grands champs de paragraphes. Et donc, elle l'a distribué de manière open source avec les fichiers sources, toute sa documentation sur le site de la typothèque. Et en fait, on a une personne qui un jour nous a écrit un mail, nous a dit « Ah bah voilà, je suis reparti de ça et j'en ai fait autre chose et voilà, qu'est-ce que vous en pensez ?» et tout. Et en fait, c'est aussi comme ça qu'on augmente potentiellement nos expérimentations et que petit à petit, on va trouver des réponses.
On retrouve notamment sur le site internet de la collective des conditions d'utilisation pour les typographies et ça me fait penser à ce qui est sur le site qui écrit « Dès que ça circule, ça bouge » avec cette idée que les personnes puissent se réapproprier les typographies, les faire évoluer au fur et à mesure des usages aussi.
C'est la fin de ce première partie d'entretien. On va écouter une petite chanson que tu nous as choisie. Peux-tu nous faire le plaisir de l'introduire ?
Alors, on va écouter Pedal Love, qui est une chanson lyrique de Le Talu, qui est une artix bruxelloise. Voilà.
Entre nous, faut se protéger. C'est pas pour rire, même si on se marre. Parce que si on le fait pas nous-mêmes, personne s'en donnera la peine. Nous, on n'aime pas dénoncer. Sauf les flics et les PDG. Non, on n'aime pas dénoncer. On est des pédales, scandales, vandales. On est des PD, prénoms avec la clique, toujours mytho avec les flics, toujours honnête avec la mif, toujours mytho avec le fisc, harnais sur cul bien huilé pour entretenir la passion. Hypocritement dimanché pour berner les institutions. Y'a pas de mystère, faut saboter. Faut saboter.
C'était Pedal Love par Le Talou. Vous êtes toujours dans Chier et Cracher sur vos ondes sur la radio Syllab.
Et on est avec Max Lilo pour parler de la collective Bye Bye Binary à l'occasion de la soirée de lancement de leur nouvelle revue le 12 juin à 18h à la librairie La Rencontre. Et avant de travailler à la préparation de cet entretien, bah nous déjà dans l'émission on avait un peu en vue la typothèque de la Bye Bye Binary, on a même pu relayer l'étude de lisibilité de Sophie Vella, mais on avait surtout considéré l'aspect créatif, graphique, certes au service d'un projet politique de débinarisation de la langue, on en a parlé, et de la façon d'inscrire ça de façon noir sur blanc, mais en creusant le sujet, on a pu réaliser à quel point l'art c'est politique. C'est une formule qui va vraiment au-delà des intentions et du processus créatif, puisque ça va s'incarner même dans le moyen de production, les moyens de production. Et donc c'est ça qui va faire l'objet de cette seconde partie d'entretien. On va commencer en écoutant une petite citation qui est issue des CUT, les conditions d'utilisation typographique engageante.
Par la rédaction de ces conditions comme outil de résistance, Bye Bye Binary indique un premier cadre d'utilisation pour les utilisateurices et permet aux dessinateurices de publier leurs fonds selon un rapport de force moins déséquilibré face aux logiques propriétaires, de résister collectivement aux dynamiques d'extraction et de colonisation des savoirs.
Par cet extrait, je voulais qu'on entame une petite discussion avec toi, Max, sur la question de l'autorialité et de la filiation. Comment ça s'est incarné, justement, je parlais des moyens de production, là on est sur des moyens de diffusion, comment ces questions-là se sont incarnées dans les fameuses licences open source que vous avez travaillées pendant un temps certain, si j'en juge la longueur des conditions d'utilisation et surtout de leur histoire, en fait, qui est décrite sur le site.
Alors, il y a une grande question de l'open source, en règle générale, dans la collective. On n'en a pas parlé pour l'instant, je sais pas si on en parlera, mais on a eu aussi une grosse pratique du fanzine et de la distribution libre. Et donc, tous les fanzines sont disponibles sur le site de la collective en libre accès, en téléchargement, à l'impression, etc. Et donc, les conditions d'utilisation typographique engageantes se sont mises en place aussi dans une question de rentrer en échange aussi avec les personnes concernées par le dessin de caractère, qui est en fait une pratique où on met nos fichiers en ligne et un jour ils disparaissent de notre nom, de notre usage, et on se retrouve avec une typographie qui a été faite dans un contexte et qui se retrouve utilisée sur des affiches de fachos. Parce que elle a été téléchargée sur Dafont et qu'elle n'est pas sourcée, qu'elle n'est pas citée, qu'il n'y a pas une traçabilité. Et nous, ça va intrinsèquement avec la question queer qui est de citer ses sources et s'ancrer dans un contexte où c'est hyper important pour nous d'avoir une question de traçabilité. La question de aussi de des cutes, elle est de savoir se contextualiser en tant que personne qui utilise une typographie. Se contextualiser, ça veut dire que si vous êtes étudiant, que c'est vous faites votre mémoire, ou si vous êtes une asso, ne nous donnez aucun argent. Gardez vos sous et allez vous faire un kiff. Par contre, si vous êtes une institution culturelle, c'est intriguant quand même que vous ne donniez pas de sous pour des recherches expérimentales dont vous vous nourrissez par rapport à cette image. Et donc, les conditions d'utilisation engageantes, les cute, elles viennent aussi dans ce contexte d'essayer de trouver des outils qui sont, pour l'instant, on ne sait pas si ça va fonctionner. C'est quand même un projet qui est nouveau, les Qt, qu'on essaye énormément de faire de la pédagogie avec. C'est aussi un outil pour entrer en discussion avec des institutions, donc sur lequel on s'appuie, mais qui est un outil pour essayer de dire, voilà, ça c'est les conditions, et en fait, si tu me respectes pas, on n'a pas envie que tu nous utilises. Parce que l'une des choses les plus fortes dans la collective, c'est qu'on n'est pas là pour être particulièrement sur tous les panneaux d'affichage. Si vous n'avez pas envie de nous utiliser parce que vous êtes transphobe, c'est ciao, on n'en veut pas.
C'est un truc d'ailleurs que je trouvais marrant. À la fois marrant et surprenant en lisant les conditions, parce que pour le cas où vous êtes, il y a plein de cas qui sont listés pour les assos, les étudiants, les structures culturelles, et pour les grandes entreprises, je cite, vous souhaitez produire des objets à grande échelle avec des fonds de poste binaires, ou vous souhaitez vous donner une image inclusive et pringwasher vos insuffisances structurelles, allez voir ailleurs. Moi, je m'attendais à donnez-nous 15 000 millions de milliards, mais vous, il n'y a pas de prix pour votre dignité finalement.
On a déjà eu des échanges avec des grosses institutions qui voulaient nos pratiques expérimentales. Et en fait, le problème, c'est que nos pratiques doivent rester expérimentales et doivent rester ouvertes à plein de pratiques. Et donc, on veut pas les isoler par un beau chèque qui, certes, paye bien le loyer, mais en réalité, comme on a une pratique expérimentale et que aussi, Bye Bye Binary, on est en train de se structurer en association. On n'est pas là pour des objectifs de rentabilité, très loin de là.
Donc ça te débinarise et ça te décapitalise en même temps.
Tout à fait.
Il y avait une autre citation que je voulais apporter pour nourrir cette discussion. Il s'agit d'un extrait de l'entretien de Diane Moquet réalisé en juin 2021. On entend du coup ici la parole de Camille Circlute Caroline Daff.
Dans le premier fanzine qu'on a créé, on avait par exemple mis tous nos noms à la queue leu-leu. On ne savait plus nous-mêmes qui avait fait quoi. Mais suite à l'article publié dans la Tribune de Genève intitulé « Un Genevois crée la première typographie inclusive » qui a entraîné un emballement médiatique, on a décidé de faire une recherche pour retrouver qui avait fait quoi, en se disant que si le nom de Tristan Bartolini pouvait sortir, les nôtres aussi. Maintenant, on continue à signer collectivement, par exemple, sur Instagram, tous nos noms sont référencés et mélangés dans les posts. Mais sur certaines propositions graphiques, on va mettre en avant les personnes qui les ont créées. On croyait innocemment qu'on n'en avait pas besoin. On n'en sentait pas le besoin. Mais les médias qui veulent des noms et des visages nous poussent à cela.
Est-ce que tu as un commentaire à apporter ?
Oui, pour la petite contextualisation, Tristan Bartolini, oui c'est ça. C'est une personne avec qui on s'entend très bien, c'est juste que donc elle a fait pour son diplôme une typographie post-binaire et a reçu pour ça le prix Art Humanité 2020 de la Croix-Rouge. Et donc tous les grands titres ont titré la première typographie inclusive, waouh.
Les médias ont pas fait leur taf quoi.
Les médias ont pas fait leur taf et les médias ont toujours cherché à avoir ce fameux mythe du génie isolé qui a une idée grandiose un jour et qui fait quelque chose de merveilleux, sauf que nos pratiques sont contextuelles, nous-mêmes on n'a pas inventé l'eau chaude et en fait on s'inscrit aussi dans des pratiques qui sont passées et donc les archives sont hyper importantes pour nous et donc on a aussi cette volonté de, en fait, visibiliser nos histoires et d'essayer au maximum d'invisibiliser personne.
On aura l'occasion de revenir dessus, mais maintenant j'avais envie un peu de parler de votre approche expérimentale, tu le disais, qui a un peu pour leitmotiv de démultiplier les possibles. On va écouter cette fois-ci un extrait de votre premier numéro de la revue, le numéro EE, Imaginaire typographique post-binaire. C'est un extrait de la page 36.
Il est possible d'intervenir directement sur la lettre, et c'est un terrain riche de propositions à travers lesquelles il ne s'agit pas de proposer une solution. On ne se contente pas de résoudre, illusoirement définitivement, un problème, mais plutôt de problématiser ce qui domine dans l'alphabet, dans les formes et la norme auxquelles le texte est soumis.
Avec cette citation, j'avais envie que tu puisses un petit peu nous parler de comment cette réflexion elle est émergée, parce qu'elle ne va pas de soi. En général, quand on a une solution, on a plutôt tendance à s'en contenter, parce que c'est du travail, tout ça. Donc comment ça s'est formulé, comment ça s'est imposé comme une évidence pour vous ?
Alors en fait, nous, on vient s'installer de manière hyper minutieuse dans la question de problématiser, plutôt que trouver des solutions aux problèmes. Et donc, on vient s'inscrire entre deux lettres. C'est littéralement, en termes de questions graphiques, c'est littéralement la racine de notre travail. C'est d'essayer de fondre, de mélanger, de créer des nouvelles outils de recherche et d'expérimentation entre deux lettres. Et donc, toute cette question d'entre deux, c'est quelque chose qui se retrouve tout le temps dans la typothèque et dans le travail de la collective en règle générale, qui est de pas trouver de réponse finale parce que je crois qu'aussi on n'en a pas besoin et que ben on est là aussi pour parler en nos noms et au nom des archives auxquelles on cite. Et en fait, il n'y a pas une seule existence queer, alors pourquoi s'arrêter à une seule image, à une seule représentation queer ? C'est pas nécessaire.
Et dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu un mouvement similaire entre ce que tu racontes là et le fait d'habiter la non-binarité, entre le fait d'habiter les marges queer, les interstices, etc. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu trouves résonance, hein ?
Oui, complètement. Bah, et surtout, c'est quelque chose qui se... aussi de par nos milieux et le fait que dans la collective on ait des personnes qui soient professeurs en école d'art, c'est aussi quelque chose où on voit en fait ces dernières années une réelle montée de pratiques expérimentales et aussi que bah Dieu merci être une personne non binaire c'est moins compliqué qu'en 2018 quand la collective s'est montée et donc ben petit à petit ces images prennent de plus en plus de formes, de plus en plus de codes et c'est hyper chaleureux et doux de voir qu'en fait ces codes peuvent être modifiés tout le temps.
Comme tu parlais d'expérimentation, c'est le moment parfait pour écouter un nouvel extrait de l'entretien de Diane Moquet. Elle posait à Marouchka Payen la question suivante. Vous vous situez plutôt dans une démarche d'expérimentation ? Avez-vous tout de même envie d'arrêter des propositions de typographie et d'écriture non-binaire ?
Je pense qu'on a des points de vue différents à ce sujet au sein de la collective. En ce qui me concerne, c'est vraiment l'expérimentation qui m'intéresse. Car je pense que la typographie ne peut pas être figée par quelqu'un, et pas davantage par nous. Pour moi, ce sont les usages qui vont déterminer les formes qui vont rester. Je trouve d'ailleurs très beau la possibilité d'être surprise, par les usages de ce que l'on peut proposer.
Est-ce que justement, Max, vous avez eu des surprises d'usage que tu aurais à nous partager ?
Complètement. Bah déjà dans donc nous on a monté un inventaire pour collecter comment on sert des typographies post-binaires. Alors évidemment dans l'inventaire il y a nos propres créations graphiques, mais on a aussi des recherches de colloques, des recherches d'ateliers et toutes ces pratiques qui sont en fait des pratiques de la vie de tous les jours. Et d'un point de vue graphique, nous il y a quelque chose de très important, c'est le fonctionnement en collective. Donc ça veut dire que nos images, nos typographies, elles bougent sans cesse de forme. Et on a un système où on s'échange des fichiers et en fait il y a personne qui signe à elle seule une pratique au nom de la collective, c'est toujours au moins à deux et sûrement, enfin bien souvent à plus. Et donc c'est aussi essayer d'expérimenter des formes et de se laisser en fait surprendre qu'en fait même avec toute la bonne volonté qu'on peut avoir, cette forme là on l'aurait jamais imaginée seule et ça c'est une richesse folle.
Du travail en collectif, etc. Il y a la question de la diffusion aussi. On en parlait tout à l'heure très rapidement. Il y a la question des fanzines aussi que vous avez beaucoup fait. Juste avant, on va s'écouter un petit extrait par rapport à ça.
Publiés sans ISBN, les fanzines échappent à tout contrôle légal. De nombreux textes ont ainsi quitté leur champ académique pour infuser dans la contre-culture féministe radicale. La republication pirate, étendue à ses versions domestiques grâce à la diffusion de fichiers PDF, permet l'accès à des textes doublement difficiles d'accès, car ne circulant que dans des cercles savants et manipulant souvent des concepts ardus. On a moins peur de s'attaquer à Haraway quand c'est mis en page avec des pentacles, des cœurs et des points américains. Ça transforme notre rapport au texte.
C'était un extrait du numéro EE, Imaginaire typographique post-binaire, page 49. Alors, tu nous disais tout à l'heure, très rapidement, on va pouvoir en discuter un petit peu plus, que la collective faisait aussi des fanzines. Les fanzines, pour les personnes qui connaissent pas, c'est un format littéraire qui est assez particulier, qui est aussi beaucoup plus informel que les livres, comme c'était dit dans l'extrait, qui sont publiés donc avec l'ISBN, donc un code d'identification du livre. Et donc, où ça peut se transmettre beaucoup plus facilement. Ça rejoint un petit peu cette question de l'open source dont vous parliez aussi, cette liberté de diffusion et d'appropriation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ces fanzines qui sont créés par la collective ?
Ouais, carrément. Nous, on met à l'honneur quand même de créer des objets graphiques en continu. Donc, ça veut dire que quand on se retrouve en workshop, quand on se retrouve en résidence, à la fin, il y a toujours un fanzine qui est créé avec les moyens du lieu. Et en fait, c'est toujours des formes hyper importantes et intéressantes parce qu'on se retrouve tout le temps avec des fanzines qui sont imprimées sur l'imprimerie de la poste qui est à côté, et en fait on est obligé d'imprimer en noir et blanc et sur du papier bas de gamme, etc. Et en fait c'est aussi des formes qui sont hyper importantes et hyper utiles aussi à diffuser, parce que nous du coup c'est quand même quelque chose de d'important, c'est qu'on a grandi avec des représentations de textes qui n'existaient pas, ou qui étaient durs à trouver, ou qui n'étaient pas traduits. Et donc, en fait, à la racine même, en fait, on est des nerds qui passent notre temps sur Internet à trouver des infos kiosques et à trouver des PDF cachés et ou des textes même pas mis en page sur des fichiers doc. Et donc aussi, il y a quelque chose de l'ordre de la redistribution qui est hyper importante pour nous, d'essayer de rendre accessible, en fait.
En parlant de l'accessibilité, donc voilà, le travail de la collective, c'est quand même quelque chose de très graphique, de très imagé aussi. C'est des typographies spécifiques pour les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à aller voir, parce qu'il y en a vraiment beaucoup et de très différentes. Et le côté à la fois écriture, police d'écriture et graphisme rend des choses très illustrées finalement. En plus, quand on parle d'inclusivité, d'inclusion, on parle beaucoup des questions de genre, de la débinarisation. Il y a d'autres sujets qui tombent beaucoup aussi dans le débat public, les questions d'accessibilité pour les personnes atteintes de troubles dyslexiques ou autres. Est-ce que c'est des sujets qui ont été en discussion aussi par la collective dans son travail? Comment est-ce que ça s'inscrit dans vos pratiques?
Alors déjà, c'est un contre-argument qui est initié à la base par l'extrême droite, qui est en fait « je ne peux pas utiliser le point médian parce que c'est illisible pour les personnes de 10 ». Et nous, on est en mode « ok, quelles sont les recherches qui ont été faites sur ça? Trouvons-les ». Résultat, il n'en existe pas. Donc, comme on est borné et qu'on aime se faire du mal pour trouver des réponses aux questions, bah en fait, on a fait nos recherches. Et donc, il y a eu une aide financière en Belgique du Fonds de la Recherche en Art, le FRAR, qui a mené une recherche sur la lisibilité, menée par Sophie Vella, Enza Le Kerek et Camille Sirclude, qui est en fait allée interviewer une centaine de personnes avec différents troubles de 10 et essayer de comprendre ce qui est lisible, ce qui n'est pas lisible, avec quand même une question qui est restée importante tout le long, qui est à quel moment c'est lisible parce qu'on y est familiarisé et à quel moment c'est lisible parce que c'est lisible, et aussi est-ce que les personnes queer se doivent d'être tout le temps lisibles? Est-ce qu'on doit faire ce travail de tout le temps expliquer? Est-ce qu'on doit faire tout le temps ce travail d'être hyper lisse, de bien raconter, de bien parler? Et c'est une question un peu en suspens. Cette étude de la lisibilité, elle est finie désormais, elle a duré 2 ans, et donc elle a permis de rencontrer des publics extrêmement variés, des personnes avec des troubles de 10 qui ont déjà vu le travail de la typothèque et n'ont aucun mal à les lire, et on a un monsieur de 50 ans qui est garagiste, qui en a rien à faire de la typographie. En fait, c'est une lecture hyper importante et hyper riche pour nous de se rendre compte, lui, c'est quoi son image de ce qu'on fait.
Alors, j'ai l'impression aussi dans ce que tu dis, est-ce qu'il n'y a pas une question de la part des personnes qui produisent ces écrits et des personnes qui les lisent, une question d'accessibilité, mais peut-être pas là où on pense qu'elle est, mais d'une personne voilà qui fait pas l'effort d'aller lire. Tu donnais un exemple d'une personne... typique sur ça, qui se dirait « oh là là, c'est illisible, les personnes n'y arriveront pas, donc ça ne sert à rien », et en fait les personnes concernées arrivent à le lire. Est-ce qu'il n'y a pas cette question aussi de marginalité et de volonté de rester aussi illisible pour les personnes pour lesquelles vous n'avez pas envie que vos textes soient lus?
Ouais, complètement, c'est une grande question. Nous, on utilise beaucoup et on fait beaucoup référence aux esthétiques kitsch et camp, qui sont des esthétiques qui sont nées à la base pour en fait... ne pas être visible par des personnes qui n'ont pas les codes. Alors ça pose des questions d'accessibilité quand même pour les personnes nouvello dans les questions queer, qui sont des personnes potentiellement plus jeunes. L'idée, c'est d'exclure évidemment personne, mais il y a cette question quand même de... En fait, si visuellement le texte y trébute parce qu'en fait il a une forme horrible et des couleurs dans tous les sens, et en fait 1000 dégradés et il est imprimé sur un papier holographique, bah pour nous c'est une forme graphique hyper riche, parce qu'elle raconte, j'ai pas envie que tu me vois, par contre si tu me vois, en fait je suis hyper visible et j'ai envie de me montrer à fond.
Tu utilisais les mots kitsch et camp. Kitsch, je pense qu'à peu près tout le monde a une image bien partagée, mais camp, c'est un mot qui est un peu plus insaisissable. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est?
On peut parler de la chercheuse Suzanne Sontag, qui a beaucoup travaillé sur le camp, et c'est quelque chose que nous on reprend beaucoup dans la collective. En ce moment, il y a des textes qui sont en train d'être écrits sur la question de la politique du dégradé, de la politique de la couleur, de qu'est-ce que ça veut dire avoir des esthétiques d'un point de vue subversif et aussi d'un point de vue du trop. C'est un peu, si on doit définir le camp en tout cas dans une esthétique visuelle, c'est ça. C'est en fait aller trop loin, pousser le curseur trop loin, et en fait se retrouver représenté par en fait aussi des questions de allons au-delà de s'habiller normalement, allons au-delà de la nature entre guillemets des choses, ou en tout cas Allons plus loin dans nos images et allons plus loin dans nos esthétiques et vivons pleinement ces esthétiques-là. En fait, si vous les trouvez moches, c'est pas grave parce que nous, on y ressent beaucoup de joie.
J'ai l'impression aussi qu'il y a une question de la liberté dans ces textes-là parce que tu nous parles de la façon dont les textes sont présentés, etc. On est, pour la plupart d'entre nous, très habitués au format institutionnel. Là, on est dans une radio qui est en plein cœur d'un campus où les textes, c'est la même police d'écriture, les mêmes interlignes. Tout est très codifié, très cadré aussi. Et il y a un peu une question d'éclater les codes dans vos typographies, que ce soit par le graphisme, les couleurs, les images, la forme des lettres. À quel point est-ce que vous avez ce rapport à la liberté dans vos écrits? Et qu'est-ce que ça peut apporter aux personnes qui vont lire vos textes?
Je pense que c'est un truc qu'on essaye de savoir situer. Dans le sens où, quand il y a 2 ans, on est invité par le Musée d'Art Contemporain de Toulouse à faire un char pour la Pride, on pousse le curseur au maximum. Parce qu'on a carte blanche, donc on est sur des esthétiques hyper 3D, dégradées, esthétique camp, etc. Quand on est invité en septembre à Brest, au CAC Passerelle, pour une exposition, pareil, on pousse les esthétiques au maximum. Maintenant, on sait aussi poser les questions sur la question des accessibilités et de savoir parler au bon public. En France, notamment, la collective, elle est beaucoup appelée pour des questions artistiques, là où, en fait, en Belgique, on se rend compte qu'elle est beaucoup plus appelée sur des questions institutionnelles. On a plusieurs théâtres à Bruxelles qui ont refait leur typographie par des membres de la collective et qui ont et arborent des ligatures post-binaires sans aucun problème et sans esthétiques qui vont trop loin. On peut aussi parler de le théâtre, mince, comment il s'appelle ?
À Rennes, on a la joie d'avoir le théâtre de l'air libre qui a fait ce choix-là. J'allais justement le placer en mode bibuck, cocorico.
Bah ouais. Et donc, en fait, la typographie, elle est extrêmement lisible. Et donc, on a aussi derrière ce travail-là, mené par Enza Le Carrec, Camille Circlude et Sophie Vella, derrière le travail de recherche, il y a aussi une tentative de trouver une réponse, qui donc a été menée par Clara Sambeau, Ludy Loiseau et Eugénie Bidot, qui sont donc 3 typographes de la collective, et qui ont dessiné la Readme, qui est censée être une typographie à haut potentiel de lisibilité.
C'est un très bon nom.
On va continuer sur la dernière partie de l'entretien juste après. Je propose qu'on se fasse une petite pause musicale après ces échanges. On se retrouve juste après. Tout de suite, on écoute Bizarre par Thanks for Crying.
C'est une vie bizarre qui nous attend. Ça, on le sait depuis. Depuis longtemps.
depuis que l'on a 17 ans.
Et Bizarre par Thanks for Crying, vous êtes toujours sur Radio Syllabe, sur J'irai cracher sur vos ondes.
Prenons une seconde pour nous arrêter sur ce morceau. Max, où est-ce que t'as trouvé ça? C'est trop beau, hein?
Mais bien sûr, ça fait pleurer, c'est dans le titre.
Oui. Donc on a déjà parlé à plusieurs reprises de la revue Et Eux. On va maintenant parler du petit nouveau, de la petite dernière, le numéro EU, archive typographique du futur. On rappelle que ce petit dernier, cette petite dernière sera présentée en soirée de lancement le 12 juin dès 18h à la librairie La Rencontre. N'hésitez pas à aller voir déjà la rencontre en elle-même qui se promet d'être fort intéressante, mais également le petit zine dernier né pour lui, tel des marraines, se poser autour de lui pour lui faire des petits vœux de bon lancement. Donc, on va pas jouer en avance la rencontre, mais j'avais quand même envie qu'on en parle un petit peu. Et la première question que j'ai pour toi, Max, c'est que le numéro et eux portaient sur la question des imaginaires typographiques post-binaires. Le nouveau s'intéresse à celle des questions des archives typographiques du futur. Dans cette émission, nous, on est très convaincus des effets concrets que permettent les imaginaires dans nos façons d'appréhender le monde et d'agir dedans. Mais on sent qu'avec cette notion de futur, il y a comme un mouvement de concrétisation. Est-ce que c'est une sensation que vous partagez? Est-ce que c'était un effet qui était recherché?
Ouais, complètement. Et je pense qu'on aussi, on s'ancre dans une réponse à la montée du fascisme qu'il y a en ce moment. Et ces dernières années, et pour ces prochaines années, malheureusement. Qui est en fait de... assez urgemment créer des outils, assez urgemment créer du commun, assez urgemment créer de l'ensemble et se sentir représenté, représenté dans une histoire, représenté dans son identité. Ne pas se sentir seul dans sa lutte, ne pas se sentir seul dans sa joie, dans ses relations, dans sa tristesse. Et donc c'est quelque chose qui prend une place hyper forte en ce moment, la question des archives. Et en fait, nous on est hyper heureux de voir que c'est plus un truc de... forcément de méga nerd dans le fond d'archives, dans le sous-sol avec des cartons poussiéreux, et qu'en fait c'est un sujet hyper présent. C'est un sujet hyper présent aussi dans énormément de livres et de pratiques qui sont hyper proches de nous. On peut parler d'un désir démesuré d'amitié d'Hélène Giannichini, mais on peut parler de énormément de d'autres pratiques qui en fait essayent de voir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de nos archives, et aussi qu'est-ce qu'on fait des archives du vivant. On peut parler de du chercheur Sam Bourcier qui questionne beaucoup qu'est-ce qui fait archive. Est-ce que c'est l'institution? Est-ce qu'on attend que c'est la mairie qui archive nos vécus? Est-ce que c'est à nous d'auto-archiver nos vécus? On peut parler du réseau Big Data qui archive les questions queer partout dans plein de villes en France, à Toulouse, à Paris, à Lille, à Rennes, etc.
J'en profite pour placer que la Lesbothèque a lancé un appel à aide et à soutien. On vous remettra la référence dans le podcast parce que c'est un peu loin dans ma mémoire pour que je vous en parle de façon plus précise. Mais vu ce que tu dis, il me faut citer ce qu'écrivait Alix. Parce que du coup, dans le premier numéro de la revue, ce qui sert d'introduction, en fait, c'est un échange épistolaire sur ce que chacun, chacune au sein de la collective aspire à ce que cette revue soit. Et Alix écrivait le 4 novembre 2024 ces mots-là. Car nous sommes brûlants. Parce qu'au présent, nous travaillons à partir de matériaux que nous exhumons, à partir de nos généalogies et des mortes qui nous font toujours faire plus de choses, dans le même temps que nous inscrivons, nous aussi, dans cette même lignée. Dans un devenir avec, un devenir autre, un devenir comme post-binaire. Plus loin, il ajoute, je pense que toute lutte est une archive qui s'ignore. Est-ce que c'est quelque chose qui s'actualise toujours, ou sur lequel tu as envie de réagir, de compléter?
Qui est hyper nécessaire et qui est une question hyper importante à faire perdurer. Faut pas oublier que en fait la pratique artistique, c'est avant toute chose une pratique du corps. Le dessin de caractère, c'est à la base un trait à la main. Échanger un fanzine, c'est de main en main. Se rencontrer le 12 juin à la rencontre, c'est aussi avoir un rapport humain, avoir un rapport réel, et aussi s'ancrer dans savoir être un corps, et un corps qui peut être épuisé, un corps que le militantisme peut avoir épuisé, que la lutte peut avoir épuisé, mais en fait qui est un corps fier, qui est un corps beau, et qui est un corps dont les représentations sont nécessaires. Et avant toute chose, certes on a un attrait pour la typographie, mais avant toute chose, il est question de représentation de vraies personnes, de personnes humaines.
Et j'avais envie qu'on conclue un petit peu en parlant de ces fameuses archives dont t'as déjà beaucoup parlé, parce que manifestement, c'est quelque chose qui est vraiment, qui se lit en filigrane à travers votre travail. Je voyais, enfin, je découvrais en me renseignant pour ce soir que la production des formes typographiques, ça s'inscrit de base dans une longue histoire de la copie. Et ce que je notais également, c'était le soin tout particulier qui était accordé au choix des textes que vous utilisez, notamment pour les spécimens typographiques. Donc, ce sont ces documents qui permettent de donner à voir la typographie en exercice. Est-ce que tu peux nous parler peut-être pas de la relation aux archives, parce que je pense que t'en as déjà mentionné pas mal d'éléments, mais un peu plus sur la nature de ces archives-là, quel genre de texte vous allez employer, quel genre d'écrit on peut découvrir en lisant vos revues.
Tu parles du coup explicitement sur la revue?
Alors, je pense qu'on peut parler de la revue, mais s'il y a d'autres exemples qui te viennent, n'hésite pas.
Bah nous, on a ce travail de citer énormément sur les drapeaux, sur les bâches, sur... Tout le travail qu'on fait, on cite énormément, on s'axe énormément. Encore une fois, on lutte contre cette fameuse idée du génie isolé. Donc en fait, comme on s'inscrit dans un contexte, il faut citer, il faut dire, il faut dater, il faut contextualiser que nos pratiques, elles existent et qu'elles ont existé. Et par rapport à la typographie et donc aux spécimens typographiques auxquels tu fais référence, donc dans la revue, on a deux spécimens typographie par revue. Donc ils sont des spécimens de typographie issus de la typothèque, qui donc ont des ligatures post-binaires. Et en fait, c'est pas un... Donc pour vulgariser, un spécimen typographique, c'est donner à voir les contextes dans quel, à quoi elle ressemble la typographie dans une petite taille, dans une grande taille, dans un corps de texte, etc. Et donc, bah, on avait cet espace qui sont plusieurs pages dans la revue qui est diffusée par un éditeur, ce qui est hyper rare dans le travail de la collective. Donc, on avait aussi à l'honneur de, en fait, on a cet espace-là, on a ces pages-là, autant parler de textes qui sont hyper importants dans nos luttes, dans nos histoires, et visibiliser des textes qui potentiellement, ben, sont pas parus avec des ISBN et diffusés dans les écoles, etc.
Vous avez fait du ruissellement?
C'est-à-dire?
Parce qu'en fait, je voulais dire, il y a la théorie capitaliste du ruissellement où les privilégiés vont faire bénéficier aux minorisés. Et donc là, c'est un peu ce qui s'est passé. Ça fait, ouais, on a un espace de diffusion, de visibilité, d'historisation. On va ressortir les oubliés des tiroirs et les mettre sur la lumière.
Bah, c'est un truc hyper important parce que je crois qu'on leur doit beaucoup, en fait, aux oubliés.
Est-ce qu'il y a toi-même un texte que t'aimerais citer parmi ceux que tu as pu utiliser dans ton travail de typographe?
Waouh, là tout de suite comme ça?
Genre le petit dernier que t'as fait, toi là, t'as besoin, je vais te prendre, je vais t'emmener.
Dans mon travail de typographe? Bah en réalité moi je suis hyper intéressé par les luttes intersectionnelles, donc je peux parler de Rester barbare que j'ai lu récemment. Qui m'a fait grand bien sur la question des luttes intersectionnelles, parce que nos luttes queer ne sont pas que des luttes blanches, et nos luttes typographiques et occidentales sont pas isolées, et en fait, il y a des questions de queerness en dehors de l'Occident, et elles sont hyper importantes à valoriser, elles sont hyper riches.
Merci pour cet exemple. On va écouter le dernier choix musical que tu nous as choisi. A-t-on besoin de l'introduire, finalement?
Je pense qu'on a besoin de l'introduire. Ça va être historique.
Ok. Saisissez votre meilleur chapeau de cow-boy, mettez le mini short et les Santiago. C'est parti pour Pink Pony Club de Chapel Roanne.
I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. There's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. If Santa Monica, I swear it's calling me, will make my mama proud. It's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream.
I'm gonna keep on dancing down in West Hollywood. I'm gonna keep Mama, every Saturday I can hear your southern draw a thousand miles away saying, God, what have you done? You're a pink pony girl and you dance at the club. Oh, mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong.
C'était Pink Pony Club de Chapel Run. J'espère que vous êtes bien dandinés, en sécurité pour celles et ceux qui sont sur la route. Vous êtes sur Syllab et vous assistez à la fin de notre émission de J'irai cracher sur vos ondes. Ouin, ouin, ouin.
Mais on ne se quitte pas vraiment puisque on se retrouve le 12 juin à 18h à la librairie La Rencontre pour tout découvrir sur le numéro EU, deuxième numéro de la revue Archives typographiques du futur qui est sorti en 2026 par la collective Bye Bye Binary. Il y aura une exposition très chouette, entre autres, avec des affiches issues d'une résidence à la Fraternelle et surtout une discussion avec Sophie Vella, Max Lillo et Marouche Capayenne qui promet d'être passionnante.
Et du coup, la rencontre est au Plaine de Beaux, donc n'hésitez pas aussi à discuter de manière non conventionnelle, en dehors d'un micro. On peut aussi parler pour les timides, il n'y a pas de problème. Et on se retrouve aussi le 25 juin à 18h à la ferme de Quincé avec l'association Kaleidoscope qui organise une table ronde sur la question des archives queer, notamment en Bretagne.
C'est maintenant l'heure des petits remerciements. On parlait de l'exposition avec les affiches de la résidence issue de la Fraternelle. Il y a également eu un petit fanzine qui s'appelle Bye Bye Binary, Hello Flatalniel. Merci Charlotte de l'Atelier Doux pour le prêt de ce zine collector qui était vraiment d'une lecture agréable et savoureuse. Merci à Cèdre pour la lecture des petites citations. Merci Benoît à la technique. Et puis à toi Max pour être venu et pour avoir été trop chouette.
Merci beaucoup, avec grand plaisir.
Et nous on se retrouve lundi prochain à 19h. C'est un programme un peu sympathique aussi pour la semaine prochaine.
Ouais, prévoyez les fourchettes et surtout les couteaux, parce que la semaine prochaine, on bouffe du facho. À bientôt sur Syllab!